Bonjour mes chers collègues. Alors, on est sur la dernière audition, monsieur le ministre, sur la dernière audition de cette commission d'enquête. Et nous vous recevons aujourd'hui, comme il se doit, donc monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a été longuement entendu par la commission des lois le 30 novembre dernier. L'audition ne portait pas exclusivement sur les questions de maintien de l'ordre, mais elles ont été largement abordées à cette occasion-là. Et à cette occasion-là, monsieur le ministre, vous avez évoqué des projets de réforme qu'on aura certainement l'occasion d'affiner, que vous aurez l'occasion d'affiner devant nous. Depuis a été annoncée une réunion, le Beauvau de la sécurité en janvier prochain. Nous en parlerons sans doute. Voilà. Je précise que cette réunion, la dernière de la commission, de notre commission, est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire qui précédera les questions des députés ici présents. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous propose, monsieur le ministre, donc, de lever la main droite et de dire « je le jure ».
Je le jure.
Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Merci, monsieur le président. Je salue le rapporteur et puis évidemment l'ensemble des députés présents dans cette audition. Peut-être quelques mots d'abord pour rappeler, mais vous le savez mieux que personne, vu le nombre d'auditions que vous avez effectuées, et je m'enorgueillis d'être la dernière audition, de dire que, évidemment, le maintien de l'ordre doit permettre en premier lieu la liberté de manifester, la liberté de manifestation, et elle doit par ailleurs protéger les personnes, les biens et l'ordre public, et que si la liberté de manifester, qui est une liberté constitutionnelle, doit être absolument évidemment sacrée, elle doit se faire dans des conditions qui permettent la protection des manifestants, des forces de l'ordre qui participent également à ces manifestations, pour protéger ces manifestants et, bien sûr, l'ordre public. Et évidemment, vu les difficultés parfois sociales et économiques que connaissent les pays, et singulièrement le nôtre, il y a eu des ajustements et des ajustements importants depuis l'histoire sociale et l'histoire de l'ordre public qui vont ensemble. Et je rappellerai pour la Commission que jusque dans les années 1920, c'est bien les armées qui s'occupaient de l'ordre public. Puis ensuite, la gendarmerie nationale a créé un certain nombre d'éléments spécialisés et de plus en plus, les forces du ministère de l'Intérieur se sont occupées du maintien de l'ordre par la professionnalisation d'un métier très particulier, régalien s'il en est, qui est celui de maintenir l'ordre public dans le cadre de manifestations. Alors depuis la fin des années 90, la toute fin des années 90, et singulièrement les manifestations violentes qui ont eu lieu à Seattle en 1999 lors d'un sommet de l'OMC, puis plus récemment chez nous, notamment dans le cadre des manifestations dites des Gilets jaunes, ces manifestations ont changé. Elles ont changé par rapport à ce qui existait auparavant et qui était sans doute la doctrine qui guidait le maintien de l'ordre. Ces manifestations dites des Gilets jaunes ont été particulièrement éprouvantes et ont particulièrement créé un ordre nouveau auquel la police nationale et la gendarmerie nationale se sont adaptées. Je rappelle qu'il y a eu 52 000 manifestations dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes pour 2000 policiers blessés, policiers et gendarmes blessés. Et donc, c'était un moment évidemment de tension très importante, de répétition des efforts et de présence partout sur le territoire national. Je voudrais d'ailleurs attirer votre attention, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, sur trois grandes différences auxquelles la police, la gendarmerie doivent faire face par rapport aux manifestations d'avant, si j'ose dire des manifestations à la papa. La première, c'est une manifestation qui doit respecter les règles des manifestations. Alors, ça paraît tautologique, mais la police doit avant tout prévenir les troubles avant de les réprimer. Et pour cela, il faut que le droit de manifester soit respecté dans les déclarations. Les déclarations, évidemment, de manifestation. Il y a des manifestations qui ne se déclarent pas. Et il est donc bien difficile pour la police de prévenir les troubles, de discuter avec les organisateurs, de pouvoir avoir un échange pédagogique avec eux, de dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Et puis ensuite, lorsqu'on doit intervenir pour réprimer des troubles qui peuvent exister dans l'ordre public, évidemment, c'est plus difficile à faire lorsque les choses sont de manière, entre guillemets, sauvage que lorsqu'elles sont déclarées. De même que lorsqu'on déclare ces manifestations, il faut s'en tenir à ces parcours, ce qui permet à la police et à la gendarmerie de pouvoir mieux baliser un certain nombre de chemins et sécuriser ces chemins, mais aussi aux horaires. Et à la fin d'une manifestation, il faut savoir partir, puisqu'une manifestation qui durerait largement après l'horaire déclaré serait une manifestation qui rentrerait évidemment dans l'illégalité et poserait un certain nombre de sujets d'ordre public. Alors, je vous donnais deux exemples. Le premier, si je prends l'exemple de la place de la République, les images ont pu tous nous choquer, mais enfin, cette manifestation n'était pas déclarée. Et les forces de l'ordre ont eu à connaître d'une manifestation sauvage et donc ne puissent pas parler avec des organisateurs, en tout cas de manière pacifique, ne puissent pas échanger un certain nombre d'éléments et ne peuvent pas travailler à ce que la manifestation, qui aurait pu avoir son droit légitime de s'exprimer, ne se fasse pas dans le cadre de la République, voulu d'ailleurs par le Parlement. Cela a été évidemment encadré. Les horaires sont tout à fait importants aussi, puisque la question des sommations et la question des présences des personnes après les horaires font naître parfois des difficultés, même récentes, que nous avons connues. Alors, une fois que j'ai dit qu'il fallait avant tout que les manifestations respectent l'encadrement juridique des manifestations, et elles le respectent, si j'ose dire, de moins en moins, et c'est le premier problème de la police et de la gendarmerie nationale. Deuxièmement, ces manifestations sont de plus en plus introduites, les individus de plus en plus violents, s'introduisent dans ces manifestations de plus en plus nombreuses. Ces groupes qu'on appelle les casseurs, les black blocs, on les appelle comme on le souhaite, cette irruption de violence qui n'a souvent rien à voir avec l'objet de la manifestation en tant que telle, et couplé avec le fait que le service d'ordre de la manifestation est de moins en moins présent. Jadis, lorsque des grandes manifestations existaient, qu'il s'agisse d'une manifestation sociale, on pensait évidemment à la CGT, je m'en voudrais qu'elle le prenne personnellement, mais enfin, on savait tous que la CGT savait encadrer des manifestations par un service d'ordre professionnel, travailler avec la police nationale dans des conditions qui permettaient d'exprimer les contestations, parfois très fortes, et en même temps garantissaient un maximum de sécurité de la manifestation sans que la police n'ait à intervenir. Et bien, des individus de plus en plus violents qui rentrent dans des manifestations de plus en plus nombreuses avec un service d'ordre de moins en moins présent, évidemment, ça donne des difficultés que nous connaissons et auxquelles la police doit s'adapter. Bien souvent, les manifestants, ou en tout cas les manifestants les plus violents, sont en direct avec la police nationale, la gendarmerie, et les services d'ordre sont inexistants ou extrêmement peu équipés. Et puis, le troisième sujet, c'est évidemment parce qu'il y a de plus en plus de manifestations, 52 000, je le répète, pour les Gilets jaunes, les forces de l'ordre sont de plus en plus sollicitées. Et la suppression des effectifs de police, y compris dans la gendarmerie mobile ou chez les CRS, due notamment à la RGPP, les difficultés extrêmement fortes de ne pas pouvoir s'entraîner ou se former parce qu'on est sollicité pour intervenir dans les manifestations plutôt que prendre son temps de formation ou d'entraînement, a créé les difficultés que nous connaissons, parfois le manque d'entraînement avec les autres forces, évidemment le manque de repos, qui est évidemment important, et puis parfois, j'en parlais tout à l'heure, l'utilisation de policiers ou de gendarmes qui ne sont pas faits pour le maintien de l'ordre et qui donc ne connaissent pas les mêmes formations et donc n'aboutissent pas aux mêmes gestes, aux mêmes situations devant les difficultés que nous avons évoquées. Donc ces trois points qui changent fondamentalement depuis quelques années l'ordre public en France, des manifestations qui ne se déclarent pas ou qui ne respectent pas toujours les déclarations qu'elles font, des individus de plus en plus violents avec un service d'ordre de moins en moins présent, et puis des effectifs qui sont sans cesse sollicités, font que nous avons donc des difficultés qui naissent et qui ont sans doute fait naître, Monsieur le Président, la création de votre commission. Alors, on a essayé d'y répondre, d'abord par un schéma national du maintien de l'ordre que j'ai publié au ministère de l'Intérieur, suite à un long travail qui avait été lancé par mon prédécesseur. Et cette écriture est peut-être imparfaite, j'en conviens bien volontiers, mais c'est la première fois dans l'histoire du maintien de l'ordre en France que nous l'avons publiée de manière non pas circulaire interne au ministère de l'Intérieur, mais dans un document que chaque citoyen peut consulter après une large consultation, et d'ailleurs un document qui est attaquable, qui a d'ailleurs été attaqué, notamment devant le Conseil d'État. Je constate d'ailleurs que le référé, pour l'instant, a donné raison au ministère de l'Intérieur. On pourra revenir si vous le souhaitez. Je reviens sur quelques points très, très pratiques. Le LBD qui a posé un certain nombre de questions, notamment dans le cadre de l'action des Gilets jaunes, désormais il y a un superviseur sur chaque action de ce LBD. Je constate d'ailleurs que depuis que je suis ministre de l'Intérieur, ce LBD a été extrêmement peu utilisé et n'a fait naître à notre connaissance aucune blessure et dans les dernières manifestations n'a pas été utilisé sur la plaque de la préfecture de police de Paris. J'ai refusé l'équipement en cagoule des agents de police et de gendarmerie, à l'exception de ceux qui sont en direct avec le feu, pour une meilleure identification plus clair des agents de police et de gendarmerie en cas d'intervention, ce qui a fait naître parfois la protection sur les réseaux sociaux qui nous a amené vers d'autres débats, mais je n'y reviens pas. J'ai fait changer la grenade sur proposition du DGPN et du DGGN qui était utilisée et qui posait un certain nombre de difficultés par une autre grenade qui a été largement essayée à l'entraînement et qui permet d'être moins difficile pour les manifestations en cas de désencerclement. J'ai par ailleurs amélioré, et je souhaite améliorer dans les jours, semaines et mois qui viennent, le meilleur entraînement des forces entre elles, de la préfecture de police de Paris, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, et notamment en créant davantage d'effectifs dans les CRS et dans les gendarmes mobiles pour qu'il y ait à chaque fois 4 sections dans ces armes, puisque nous allons créer en 2021-22 140 équivalents temps plein complémentaires dans la gendarmerie et 90 dans les CRS et à l'APP, ce qui fera que dans le quinquennat du président de la République, c'est plus de 600 personnes, 600 ETP qui seront mises chez les CRS et chez les gendarmes mobiles afin d'avoir davantage de force pour pouvoir tenir ces maintiens de l'ordre à Paris d'ailleurs comme en région. Je voudrais d'ailleurs souligner à quel point le matériel était une question importante et parfois empêcher gravement les gendarmes et les policiers d'intervenir dans de bonnes conditions, puisque leurs véhicules, comme leur intervention de protection, étaient parfois déficientes, pour ne pas dire très anciennes, des véhicules qui dataient de plus de 45 ans, où on avait froid l'hiver, qui n'arrivaient pas à se déplacer, dont les portes tombaient lorsque les policiers devaient intervenir pour se déplacer. Vous savez que la mobilité dans une manifestation, c'est aussi la garantie du maintien de l'ordre, et parfois des policiers ou des gendarmes qui achetaient eux-mêmes leur protège tibia à Decathlon, ou une autre marque, pardon, Monsieur le Président, de faire de publicité pour une entreprise du Nord. Mais vous voyez bien que le sujet évoqué fait qu'un certain nombre de difficultés était là et que nous avons donc donné 81 millions d'euros dans l'année qui vient pour l'équipement de ces policiers et de ces gendarmes qui font du maintien de l'ordre et que nous changerons la quasi-intégralité des véhicules de maintien de l'ordre. 250 véhicules de maintien de l'ordre changés pour la gendarmerie nationale, 200 pour la police nationale, les camions bagages, les ateliers, les camions réfrigérés, les porte-drones, les lanceurs d'eau, bref, un certain nombre de sujets qui permettront de changer complètement les équipements et qui permettront sans doute aux forces de l'ordre d'intervenir dans de meilleures conditions. Le troisième point que je voudrais souligner, Monsieur le Président, sans être trop long, c'est celui de la relation avec les journalistes qui a fait couler beaucoup d'encre. Les journalistes sont évidemment des acteurs essentiels dans le respect de ce que fait la police et de ce que font les manifestants. Ils doivent couvrir sans contrainte les manifestations, mais ils risquent aussi leur vie et leur intégrité physique dans des manifestations parfois très violentes. Et on doit les protéger, bien sûr, des charges de la police, et donc pouvoir distinguer, moi je le souhaite, les journalistes le mieux possible pour pouvoir éviter, évidemment, des policiers qui n'ont pas le but de toucher des journalistes dans leur charge, mais peuvent, à la charge, avoir ces difficultés pratiques, mais aussi des manifestants. Je rappelle d'ailleurs que c'est bien la police nationale et la gendarmerie qui a protégé de très nombreux journalistes. On l'oublie un peu trop souvent lors des difficultés des manifestations des Gilets jaunes, et ces images, je crois, sont dans toutes les têtes. Alors, la commission de la rue proposée par le Premier ministre travaillera sur la relation de manière générale avec les journalistes. Je sais que M. de la Rue l'a accepté. Il y a des choses qui relèvent du travail avec les journalistes dans le schéma du national du maintien de l'ordre. Et malgré l'avis favorable pour le ministère de l'Intérieur du Conseil d'État, on est tout à fait prêt, évidemment, à étudier, à entendre, à écouter, à améliorer, à modifier un certain nombre de dispositions afin que les journalistes puissent accomplir leur métier dans de bonnes conditions, bien sûr. Et puis enfin, et j'en terminerai par là, il y a ce qu'on appelle les casseurs, qui n'ont rien à voir avec les manifestants. Alors les casseurs, on les appelle les black blocs, on les appelle des voyous, on les appelle comme on souhaite. Ce sont des gens qui sont là pour casser du flic et pour casser du bien public et parfois s'apprendre aux journalistes ou aux manifestants. Alors l'une des difficultés, c'est que le service de renseignement, comme le travail que les policiers et les gendarmes peuvent faire, très accaparés par la lutte contre l'islamisme radical, bien sûr, doivent travailler davantage pour mieux connaître ce phénomène nouveau que sont les black blocs, avec des gens qui ont en général peu de casiers judiciaires et qui n'annoncent pas ce qu'ils vont faire avant de le faire. Mais nous pouvons travailler sur le renseignement, c'est d'ailleurs les consignes que j'ai données au préfet de police de Paris, que j'ai chargé de travailler plus en amont pour connaître ces personnes. Les interpellations et les contrôles préventifs permettent de voir les choses de manière plus efficace, comme nous l'avons fait dans la dernière manifestation de samedi dernier. Je rappelle d'ailleurs qu'elles se font toujours sous l'autorité du procureur de la République. Il ne s'agit pas d'arrestations arbitraires, comme j'ai pu le lire. C'est toujours l'autorité judiciaire qui les permet, comme les contrôles d'identité, et de voir pourquoi on a besoin de vis, de parapluie quand il ne fait pas beau avec des pointes, de couteaux, de marteaux. Quand on fait des manifestations, évidemment, nous devons pouvoir continuer à faire ces contrôles préventifs. Et puis, le travail très important que je fais avec le garde des Sceaux pour mettre en place les interdictions de paraître. On le connaît parfois dans les quartiers, quand il y a des dealers ou des gens qui posent des problèmes très forts dans un quartier, on ne les emprisonne pas, mais on leur interdit d'aller dans tel ou tel quartier, parce que c'est là où ils ont commis leurs méfaits, où ils sont connus. Nous pourrions imaginer d'améliorer très largement et permettre une interdiction de paraître prononcée, bien sûr, par le juge, qu'il soit administratif ou judiciaire, d'empêcher des gens qui sont identifiés comme violents d'intervenir dans des manifestations afin que les vrais manifestants puissent manifester, que les casseurs ne privent pas de leur droit de manifester et ne cassent pas l'image, y compris de la revendication faite par les manifestants et protègent les services de police. Voilà en quelques mots, monsieur le président. Je répondrai évidemment à toutes vos questions et vous dire que si le maintien de l'ordre est une mission très régalienne. Chacun sait qu'elle est très difficile et je voudrais en profiter devant vous pour remercier très sincèrement tous les policiers et les gendarmes, les agents de la préfecture de police de Paris et les agents des préfectures pour leur travail difficile, courageux, souvent patient et les quelques gestes qu'il faut évidemment condamner lorsqu'ils sont contraires à la déontologie ne doivent pas couvrir la forêt de policiers et de gendarmes qui, tout en prenant des coups et des blessures, des insultes et des crachats, font respecter les valeurs de la République, permettent aux manifestants de manifester et de pouvoir, dans un climat de grande violence, porter haut l'uniforme de la République. Et je suis très fier d'être leur ministre.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Cette commission, à chaque fois qu'elle a pu, a rendu hommage, à l'occasion des diverses auditions que nous avons eues, a rendu hommage, effectivement, à nos forces de l'ordre qui le méritent amplement et qui ne sont pas à la fête ces derniers temps. Juste pour aussi remettre les choses dans leur cadre et rendre à César ce qui est à César, la création de la commission a été demandée par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale. C'est donc à eux que revient le mérite d'avoir cette commission-là, qui est une très très bonne idée que je fais mienne. Moi, j'ai juste l'honneur de la présider. Je voulais vous poser plusieurs questions au départ, mais vous avez largement répondu, en particulier sur les conditions matérielles. Peut-être, vous avez dit beaucoup de choses sur les conditions matérielles, monsieur le ministre. Peut-être ciblé sur le plan de relance, est-ce que sur le plan de relance, on aura des choses spécifiques au maintien d'ordre ou ça sera beaucoup plus général? Ça, c'est ma première question. Vous avez aussi parlé de formation. Dans cette commission-là, a été soulevé le problème de formation spécifique pour le maintien de l'ordre avec un vrai gap entre les unités spécialisées du maintien de l'ordre, les CRS, les gendarmes mobiles, les compagnies d'intervention et les autres qui intervenaient au cas par cas parce que l'actualité faisait que c'était les premiers à intervenir. Donc, est-ce qu'il y aura une formation du maintien de l'ordre qui sera aussi spécifiquement dirigée sur ces unités-là qui n'ont pas vocation quotidiennement à faire du maintien de l'ordre? Ensuite, j'aimerais que vous nous, si vous le voulez bien, vous nous décliniez un peu en termes d'encadrement, puisque ça fait partie des sept péchés capitaux, donc c'est l'expression que vous avez dite en commission des lois et qui a fait Florès maintenant et que je reprends. Il y a un aspect encadrement. Pouvez-vous nous éclairer sur l'aspect encadrement, en particulier dans ce domaine-là? En particulier, vous visiez la police nationale, donc pour la police nationale. Voilà les premières questions. Je vous en prie.
Merci, monsieur le président. D'abord, sur les conditions matérielles. Alors, l'idée n'est pas de tout mettre dans le plan de relance. On a mis ce qui relevait du plan de relance, c'est-à-dire ce qui pouvait être consommé en 2 ans et qui était vert. Donc, il y a des dispositions, notamment, je pense, un certain nombre de véhicules qui pouvaient répondre à l'idée du plan de relance. Mais dans le cadre des crédits 2021 que vous avez votés, on y a parfois mis des éléments de budget supplémentaires. Je pense évidemment à tous les sujets que j'ai évoqués. Alors, je peux vous venir fournir à votre commission le détail. Il est très important, hein, puisque c'est des montants extrêmement forts. Je pense aux véhicules, les VCT, les VMO, les spécialistes le sauront. Le maintien de l'ordre d'un côté et les véhicules blindés de l'autre sont évidemment pris dans les crédits du PLF lorsqu'ils ne sont pas, relèvent pas des crédits verts du plan de relance. Les 100 camions bagages, les 10 porte-drones, les 7 engins lanceurs d'eau, mais également les 12 000 gilets 4 en 1 qui ne sont pas du plan de relance et qui sont des matériaux extrêmement importants pour les forces de l'ordre et qui sont pris dans les crédits du PLF pour la gendarmerie nationale, par exemple, font que nous sommes dans une relance, on va dire, de matériel. Tout ce qu'on a pu mettre dans les crédits écologiques, on l'a mis, et tout ce qui ne relève pas du plan souhaité par Bruno Le Maire et Barbara Pompili, on l'a pris dans les crédits PLF. Donc oui, il y a eu un peu, mais l'essentiel est pris dans le crédit, dans les crédits PLF, si j'ose dire, de base. Deuxièmement, vous évoquez les personnels qui ne sont pas des spécialistes du maintien de l'ordre et qui ont participé malgré tout au maintien de l'ordre, ce qui explique parfois quelques débordements, peut-être pas excusables, mais enfin qui les explique. Hein. Il n'est pas du tout pareil de faire policier de voie publique que d'être policier en maintien de l'ordre. D'abord, ça demande un entraînement avec les autres. Ça demande une coordination aussi du chef de la manifestation qui est le préfet. D'ailleurs, on s'est rarement souligné, mais dans le schéma national du maintien de l'ordre, nous avons itéré et bien écrit qui était responsable de quoi, ce qui se perdait un peu dans les limbes, et le choix de la stratégie de manifestation qui doit être d'ailleurs inspiré par un bon renseignement. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et donc, si nous augmentons très fortement, je l'ai dit, le nombre de gendarmes mobiles et de CRS qui s'occuperont de maintien de l'ordre, il y a sans doute à faire un travail très important de formation du policier de la voie publique qui pourra, ici ou là, participer à des opérations de maintien de l'ordre en appoint. Pour cela, il faut aussi lui fournir un équipement. Pendant la crise des Gilets jaunes, on a trop vu de policiers expliquant qu'ils avaient, encore une fois, acheté eux-mêmes leur équipement. Ils n'avaient pas le même uniforme forcément ou les mêmes matériels d'intervention. Et donc cela, il faut évidemment qu'on y mette absolument fin et qu'on puisse prévoir un kit, une formation pour les policiers de voie publique qui pourraient ponctuellement, notamment dans les villes de province, être utilisés pour faire du maintien de l'ordre. Donc, dans les 7 péchés capitaux, il y a la formation initiale et la formation continue. Je reçois les syndicats de police d'ailleurs demain et j'aurai l'occasion d'évoquer ces préparatoires au Beauvau de la sécurité. Et ça fera partie, monsieur le président de la commission, du travail très important que nous ferons dans le cadre du Beauvau de la sécurité et qu'on en tirera toutes les conséquences pour les policiers de voie publique.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, chers collègues.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le ministre. Très heureux de vous entendre aujourd'hui. Comme vous l'avez souligné, il y a plusieurs mois, quand la commission d'enquête a été constituée, cela résultait de toute une série d'événements qui duraient déjà depuis quelques années. Encore que, il faut quand même rappeler que dans la précédente législature, il y avait déjà eu une commission d'enquête relative aux forces de l'ordre. Elle était présidée par notre collègue, ex-collègue Noël Mamère. J'en avais fait partie d'ailleurs. Donc, c'est pas un sujet finalement tout à fait nouveau, ni pour le gouvernement, bien entendu. Nous avons reçu ici plusieurs de vos anciens, de vos prédécesseurs, qui à peu près nous ont tous dit une parole que vous nous avez indiquée aussi, que c'était bien difficile, que la tâche du maintien de l'ordre était une tâche assez compliquée quand on l'abordait au niveau du, bien sûr du terrain, mais aussi bien entendu en tant que ministre de l'Intérieur. Oui, nous avons eu cette volonté de créer cette commission d'enquête et je dois dire, je ne sais pas si on doit s'en féliciter, mais je dois dire que nous avons été rattrapés un petit peu par les événements. Il y a 5 mois à peu près, quand cette commission d'enquête a été constituée, bien sûr, il y avait des sujets, ils sont sur la table aujourd'hui, mais ils le sont d'autant plus que, effectivement, vous êtes intervenu, en particulier vous, mais aussi Monsieur le Président de la République, de manière très forte sur ces sujets au cours de ces dernières semaines, en particulier. Donc pour nous, c'est très intéressant. Bon, ça nous coupe un peu l'herbe sous les pieds finalement, parce que vous avez abordé des sujets sur lesquels nous avions bien entendu l'intention de mettre l'accent, mais pourquoi pas, si nous pouvons conjuguer nos efforts, ça ne sera que mieux. Le Parlement va s'exprimer, en tout cas la commission d'enquête va s'exprimer, vous allez vous exprimer. C'est une bonne chose si nous pouvons le faire à peu près dans la même direction, et je ne doute pas d'ailleurs, puisque notre volonté est de travailler à ce que la police, la gendarmerie, les forces de maintien de l'ordre puissent travailler dans de meilleures conditions dans l'avenir, avec un cadre renouvelé. Bon, vous avez publié le nouveau schéma, c'est très bien. Voilà. Alors on a reçu beaucoup de monde, on a reçu plus de 50 personnes au cours de toutes ces auditions. Il reste quand même un certain nombre de questions que nous devons vous poser, même après votre intervention liminaire. D'abord, je ne vais pas revenir sur des sujets que vous avez abordés, ce n'est pas la peine de vous faire répéter deux fois la même chose. Simplement, pour vous, en parlant de formation, ben vous venez de le dire, mais que vous n'avez pas encore tout à fait défini quel allait être le nouveau schéma. Vous allez voir les syndicats demain, vous allez leur en parler, mais sachez que ça, c'est une préoccupation qui est forte, non seulement la formation initiale, mais bien entendu la formation continue, qui en théorie existe, elle existe, mais enfin, beaucoup d'informations nous sont remontées pour nous indiquer que la formation continue en particulier n'est pas forcément toujours au niveau auquel on pourrait s'attendre. Quant à la formation initiale, vous le savez bien, elle a été réduite, enfin son format a été revu en tout cas. Bon, donc je ne reviens pas là-dessus, vous l'avez évoqué, vous allez encore y continuer à y travailler, mais sachez que nous allons aussi nous exprimer assez fortement sur ces questions. Sur l'encadrement intermédiaire au cours des forces de l'ordre, vous avez aussi exprimé un certain nombre d'idées, enfin en tout cas, vous avez soulevé la question. Est-ce que vous pouvez avancer un tout petit peu plus sur les idées qui sont derrière la question posée? Comment voulez-vous réformer l'encadrement intermédiaire? Ensuite, oui, une question importante qui a été soulevée souvent par les personnes que nous avons auditionnées, puis qui est dans l'actualité, que vous avez évoquée, que le président de la République a évoquée, c'est la réforme du contrôle, de l'IGPN en particulier. Est-ce que vous avez des pistes en réflexion que vous pouvez nous livrer? Nous aurons peut-être d'ailleurs quelques idées à vous livrer quand nous pourrons rendre d'ici la mi-janvier à peu près notre rapport. Mais voilà, il serait intéressant de vous entendre sur cette volonté maintenant qui est manifeste, exprimée par beaucoup, sur la réforme de l'IGPN. Quid d'ailleurs de l'IGGN, hein? Est-ce que vous faites un distinguo entre ces deux institutions nécessaires, utiles à nos forces de sécurité, à leur contrôle? Sur le Beauvau de la sécurité, est-ce que vous pouvez nous indiquer déjà quelques modalités d'organisation, le calendrier, etc. Sachez que parmi les députés qui s'expriment ici ou ailleurs, beaucoup souhaitent d'une certaine manière que le Parlement puisse être associé dans la réflexion autour du Beauvau de la sécurité, même si ça relève de l'exécutif, on en est bien conscient. Mais il y a une demande de notre part. Alors voilà toute une série de premières questions. Je vais peut-être m'arrêter là. Après, je reviendrai. D'autres collègues peut-être réagiront aussi. Mais il y a aussi des sujets sur les recommandations du défenseur des droits depuis de nombreuses années qui, semble-t-il, ne sont pas du tout entendues par les différents ministres qui se sont succédés ces dernières années, des sujets comme ça. Mais je m'arrête là pour le moment, et puis éventuellement je reprendrai la parole si certains collègues veulent s'exprimer, ils le feront, et si des questions après restent en suspens, ben, je réinterviendrai pour vous les poser. Merci en tout cas.
Merci Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre.
Oui, merci, monsieur le rapporteur. Peut-être bon, sur la formation, je l'ai effectivement évoqué. La question qui se pose, celle de tous les policiers nationaux et de tous les gendarmes, la question particulière pour le maintien de l'ordre, c'est d'abord celle de ceux dont la profession est faire du maintien de l'ordre, et notamment, je pense que le plus important, c'est l'entraînement, et notamment l'entraînement avec les autres. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Alors, si je prends la place parisienne, c'est que vous avez trois types de forces qui interviennent, la préfecture de police de Paris, les agents, les CRS et les gendarmes mobiles, et qu'ils ont chacun un responsable, chacun une manière de faire, parfois du matériel différent. Alors ça, c'est l'histoire, je n'y reviens pas. Et il faut que la coordination soit parfaite, les réflexes, évidemment, et le niveau d'action en commun qui exige beaucoup de répétitions. Et il manque très concrètement des terrains. Par exemple, les agents de la préfecture de police de Paris ne s'entraînent pas dans la zone de l'APP. Ils doivent sortir de la zone de l'APP pour s'entraîner. Donc, il y a à la fois des questions de matériel, il y a des questions d'encadrants et de formateurs, puis il y a des questions de temps pour se former. Donc, ça, c'est la formation que l'on doit à ceux qui sont les professionnels du maintien de l'ordre. Et puis après, il y a la formation à ceux qui font optionnellement désormais du maintien de l'ordre, c'est-à-dire les policiers de voie publique et parfois d'autres policiers que ceux de voie publique. On a eu un certain nombre d'exemples de gens qui, par manque d'effectifs ou par la multiplication des manifestations, hein, je rappelle les Gilets jaunes, 52 000 manifestations tous les samedis, parfois dans la semaine, il a fallu garantir la liberté publique. On a même parfois vu des policiers municipaux participer à ces opérations en province, ce qui évidemment n'est pas du tout leur rôle. Ces policiers nationaux, ces gendarmes, si j'ose dire, de voie publique, ils doivent pouvoir être également formés. Donc, il faut qu'on y travaille tout particulièrement. Sur l'encadrement intermédiaire, il s'adresse encore là aussi à l'ensemble de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pas qu'au maintien de l'ordre. De manière générale, d'ailleurs, l'encadrement ou l'encadrement intermédiaire dans le maintien de l'ordre, il est sur le terrain avec les sections de CRS ou de garde mobile. Donc, ce n'est pas tout à fait à eux que se posent des choses. Peut-être que pour eux se pose la question de la supervision, comme je l'ai mis en place pour le LBD, c'est-à-dire qu'il y ait toujours une personne qui puisse contrôler une autre et d'ailleurs la conseiller. Et on peut très bien comprendre pourquoi. Ce n'est pas simplement parce qu'on se dit qu'une personne peut utiliser à mauvais escient telle ou telle arme qui est difficile parce que c'est une arme qui peut être létale ou qui peut blesser gravement des personnes, mais aussi parce que dans une situation de peur, soit par manque d'expérience, soit par de violence très forte, hein, à des gens qui sont à quelques mètres de vous, le réflexe humain peut être d'utiliser à mauvais escient une arme. C'est notamment le cas du LBD qui n'est pas toujours prévu pour la distance à laquelle a été utilisé par rapport aux manifestants et par rapport à la stratégie qui a été mise en place de manifestation. Donc quelqu'un qui est à côté et qui n'est pas directement en prise, le superviseur n'étant peut-être pas forcément d'ailleurs quelqu'un qui est physiquement à côté. Avec les moyens modernes, on peut superviser les choses, y compris à distance, avec des images, du recul, une volonté différente de voir l'action. C'est aussi important pour l'encadrement. L'encadrement, par ailleurs, moi je pense que sur la voie publique, il devrait y avoir plus de sous-officiers ou d'officiers qui sont sur la voie publique, au milieu des femmes et des hommes qui servent sur le terrain de la République, mais ça ne concerne pas directement le maintien de l'ordre. Et puis, il y a aussi une formation des chefs. Être chef, ça exige aussi évidemment des responsabilités particulières. Et de ce point de vue, il n'y a pas que les hommes du rang ou les femmes du rang qui doivent être formés. Il y a aussi évidemment une formation. De Gaulle disait que c'était la culture générale qui était la meilleure des formations pour être chef. Mais enfin, une formation à comprendre les enjeux, le fonctionnement de tel ou tel mouvement de foule, de tel ou tel casseur ou de telle ou telle typologie de terrain, ou comment on gère la peur des hommes, ou comment on gère parfois les difficultés de telle ou telle situation. Donc, c'est un peu tous azimuts que l'encadrement doit être utilisé, même si directement le maintien de l'ordre est sans doute celui où il y a le plus d'encadrement en lien direct avec le terrain. Sur la question de l'IGPN et l'IGGN, moi, je réitère que les inspections sont des choses qui doivent rester à la main des administrations. C'est tellement vrai que je constate d'ailleurs que si on imaginait une inspection qui n'était pas à la main de l'administration, il faudrait le faire pour tous les ministères. Pourquoi ne s'intéresser qu'aux inspections du ministère de l'Intérieur? Il y a des inspections à Bercy, il y a des inspections au ministère de la Justice, enfin des inspections partout. Et c'est normal que le ministre et les directeurs généraux aient à leur main une administration dans le cadre de procédures administratives. Il se trouve que l'IGPN, comme d'autres inspections, est parfois aussi sous la main de l'autorité judiciaire. Je prends l'exemple de l'IGPN qui officie en tant que service d'enquête pour le procureur de la République de Paris dans la question qui touche l'affaire Zecler. Je peux témoigner, j'ai très prêté serment, que je n'ai aucune remontée d'informations de ce qui se passe dans l'enquête qui a été mise en place et qui a pourtant conduit à des policiers à être sous mandat de dépôt. Et ce n'est pas parce que je suis organiquement le chef par l'intermédiaire du DGPN et que je nomme la chef de l'inspection qu'à chaque fois, tout remonte au ministre de l'Intérieur et qu'il n'y a pas d'indépendance. Le fait d'être organiquement rattaché à quelqu'un ne veut pas dire qu'il y a une indépendance dans l'action il n'y a pas d'indépendance dans l'action tous azimuts. Alors, après, est-ce qu'il faut améliorer le fonctionnement? Oui, je partage cette idée. Je pense qu'il y a une question de délai quand l'IGPN, y compris dans les procédures administratives où l'IGN fait un certain nombre de remarques, aujourd'hui, elles ne sont pas contraignantes. Il faudrait dire, sous 3 mois, l'administration doit au moins répondre de ce qu'elle fait des propositions de sanctions, par exemple, de l'administration. D'ailleurs, faut-il rendre ces propositions contraignantes? C'est une question intéressante. Aujourd'hui, un directeur général de la police nationale de gendarmerie a le droit de dire que la proposition d'inspection, il ne la met pas en place. Faut-il d'ailleurs qu'il motive pourquoi elle ne la met pas en place? Ben, pourquoi pas? En tout cas, ça, ce n'est pas une obligation non plus. Peut-être qu'il faut le faire. Faut-il d'ailleurs mettre des non-policiers ou des non-gendarmes à la tête de ces inspections? C'est une question à étudier. Mais en tout cas, et faut-il rendre transparent à chaque fois les rapports des inspections? Moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai eu à connaître ces inspections et que le débat public était sur ce sujet. Donc, en tout cas, je pense qu'on peut garder une inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale sans faire des autorités administratives indépendantes qui réduisent encore une fois le pouvoir du politique et qui, du coup, retirent la responsabilité du ministre de l'Intérieur devant vous, alors que je ne dois des comptes au Parlement, et c'est bien légitime. Et en même temps, on peut améliorer très largement la façon dont ces inspections fonctionnent. Troisième sujet, et j'en terminerai par là, puisque c'était votre dernière question, monsieur le rapporteur, c'est du Beauvau de la sécurité. Évidemment, je compte bien que le Parlement soit associé aux États généraux ou aux grands débats publics, c'est comme ça que nous pourrions l'appeler également, sur la sécurité. Il complète d'ailleurs très largement les réflexions prospectives du livre blanc pour la sécurité intérieure que j'ai fait publier. J'ai noté les 7 péchés capitaux, le président Feuvergue avait eu la gentillesse de souligner qu'ils avaient fait florès, les péchés, évidemment, intéressent tout le monde. La formation initiale et continue, l'encadrement, les contrôles internes, dont l'IGPN et l'IGGN, les moyens mis à disposition, la captation des interventions, la question de l'image, on a largement parlé dans la PPL Sécurité publique, le maintien de l'ordre, qui fait partie des 7 péchés capitaux, si j'ose dire, puisque les moyens n'ont pas été donnés toujours pour que ce maintien de l'ordre se fasse dans de bonnes conditions pour les policiers et les gendarmes, et puis le lien avec la population. Moi, je souhaite, après avoir vu les syndicats de police demain et après avoir vu les représentants de la gendarmerie lundi, que nous puissions, fin janvier, lancer ce Beauvau de la sécurité. J'oserais dire ces Beauvau de la sécurité, parce que je souhaite que ce soit très décentralisé également. Je vous l'annonce peut-être devant votre commission, mais j'entreprendrai un tour de France pour discuter en direct avec les policiers, les gendarmes, leur encadrement, mais aussi le personnel administratif, les élus locaux, les associations, les citoyens, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux questions de sécurité. Et tout cela, bien évidemment en lien parfait avec les parlementaires, monsieur le rapporteur, tout cela permettra de créer les conditions de la fameuse loi de programmation, la LOPCI, qu'attend depuis très longtemps le ministère de l'Intérieur, puisque depuis l'arrivée de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il n'y a pas eu de grande réflexion stratégique au ministère de l'Intérieur par la force des choses, parce qu'il y a eu le terrorisme et qu'il fallait gérer le terrorisme, parce qu'il y a des gros sujets d'ordre public, comme c'était le cas des Gilets jaunes. Et donc, moi, je suis très satisfait d'être le ministre de l'Intérieur qui le met en place dans un grand débat, comme son nom l'indique, en lien avec les élus, bien évidemment.
Merci, monsieur le ministre. J'ai plusieurs collègues qui se sont inscrits, donc on va prendre plusieurs questions et plusieurs collègues, si vous le voulez bien, d'affilée. On va commencer par Jean-Louis Thériault. Chers collègues, la parole est à vous.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je crois que chacun ici peut se féliciter de la réussite du maintien de l'ordre samedi dernier avec des casseurs violents à Paris, où l'idée de manœuvre qui a présidé à l'encadrement de cette manifestation a été ce que dans le jargon policier on appelle un engagement avec des bons en avant pour interpeller les groupes de casseurs qui se constituaient. La réussite est évidente, on a vu ni magasin détruit, ni voiture brûlée, c'est donc une voie à explorer. Est-ce que vous croyez que cette tactique qui a été adoptée devrait devenir davantage la norme lorsqu'on sait qu'il y a des casseurs violents dans une manifestation, et est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin dans ce sens, dans un schéma amélioré du maintien de l'ordre? Question qui est directement liée, ça sera ma deuxième question, ça suppose un tapissage le long du parcours des manifestations, c'est-à-dire des effectifs importants. Dans votre analyse des 7 péchés capitaux, vous avez parlé du sous-dimensionnement. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réfléchir à un renforcement du rôle de la réserve, que ce soit police ou gendarmerie, pour faire du maintien de l'ordre, ou en tout cas pour libérer des effectifs de police, pour être plus nombreux, pour participer à ce type d'événement? Là, il y avait, je crois, 3 ou 4 000 manifestants. Si on en a 50 000 avec des éléments violents dedans, ce sera évidemment plus compliqué. Enfin, dernier sujet que vous aviez aussi évoqué dans les 7 péchés capitaux, celui de la captation d'images. Elle a une fonction, on va dire, d'exemplarité, qui, je crois, est de nature à rassurer tous nos concitoyens. Elle a aussi une utilité dans la judiciarisation du maintien de l'ordre, qui est nécessaire pour mettre hors d'état de nuire et sanctionner les fauteurs de troubles, que je distingue évidemment des manifestants pacifiques. Comment pensez-vous qu'on peut progresser dans ce domaine de la captation d'images, et faut-il ou non y intégrer la reconnaissance faciale qui permettrait d'aller plus facilement vers l'identification des fauteurs de troubles et donc de permettre ensuite leur déferrement à la justice, puisque c'est évidemment, in fine, le pouvoir judiciaire qui trancherait. Merci, Monsieur le Ministre.
Merci. Et le collègue Hugo Bernalicis qui voulait poser une question.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur le ministre. Moi, j'ai une question assez simple, c'est de savoir quel est votre rôle exact et concret quand il y a des manifestations à Paris et des manifestations qui peuvent avoir une envergure médiatique dans la chaîne de commandement, puisqu'on sait que le préfet de police vous rend des comptes directement. Quelle consigne avez-vous donné, par exemple, sur la manifestation concernant la place de la République où les exilés se sont regroupés là, effectivement, sans déclaration préalable, comme vous l'avez indiqué. Et à l'identique, quelles ont été vos consignes pour la manifestation de samedi dernier, puisqu'il y a deux façons de voir la manifestation de samedi dernier. Hein. Il y a ceux qui disent « c'est un succès, les casseurs n'ont pas cassé ». Et puis, il y a le bilan qui a été fait des interpellations et des procédures judiciaires avec un nombre extrêmement élevé de classements sans suite et de poursuites qui n'ont pas abouti. Est-ce que finalement ces projections dans la manifestation n'ont pas conduit à ce que ce soit finalement un trouble supplémentaire pour les tas de gens qui voulaient manifester tranquillement et qui se sont retrouvés parfois interpellés et souvent gazés et molestés? Il y a une critique très forte de ces techniques d'intervention chez nos voisins européens, on le sait, sur les règles de l'engagement en manifestation, et chez nos voisins anglais ou allemands, ou même dans d'autres pays, on en revient à la doctrine initiale qui est de dire les forces de maintien de l'ordre, les effectifs de maintien de l'ordre sont avant tout là pour encaisser en manifestation et garder à distance, et non pas pour aller au contact et interpeller. Ce qui interroge évidemment, mais j'aimerais savoir du coup quel est votre rôle concret dans ces deux manifestations, quelles consignes vous avez données avant, quelle remontée d'informations vous avez, est-ce que vous étiez vous-même dans les salles de commandement, que ce soit pour la manifestation de la République ou celle de samedi dernier. Enfin, voilà, nous en dire plus sur là-dessus. Merci.
Merci. Avant de passer la parole à une autre collègue, je tiens à dire qu'on a reçu pas mal de documentation de la part de la DCI, de la Direction de la coopération internationale, sur les techniques dans les pays étrangers, et que cette documentation est très intéressante, loin en général de ce qu'on nous dit d'une manière répétitive. Je vais donner la parole à la collègue Aude Bonneau-Vandorme. Chers collègues.
Oui. Merci, j'arrive pas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le renseignement territorial a subi de nombreuses réformes ainsi qu'une réduction de ses moyens pendant de nombreuses années, ce qui a nui à la connaissance des tissus sur le territoire. Depuis le début de ce quinquennat, vous avez pris conscience de ce problème et les moyens humains et financiers ont été renforcés. Vous avez récemment, Monsieur le Ministre, élargi le fichier prévention des atteintes à la sécurité publique, le fichier gestion de l'information et de prévention des atteintes à la sécurité publique et le fichier enquête administrative aux personnes présentant un danger pour la sécurité de l'État, en particulier pour les intérêts fondamentaux de la nation. Quelles sont vos attentes, puisque c'est un décret de début décembre, quelles sont vos attentes concernant cette réforme et avez-vous l'intention de mettre en place d'autres réformes? Je vous remercie.
Merci, chers collègues. Et puis enfin, chère collègue Constance Le Grip, la parole est à vous.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je voulais tout d'abord, moi aussi, saluer l'action de nos forces de l'ordre, policiers et gendarmes, qui ont à faire face à des missions de plus en plus difficiles et qui le font avec beaucoup de courage et de dévouement. Les travaux de cette commission d'enquête qui avait été voulue par le groupe socialiste nous ont permis d'entendre beaucoup d'interlocuteurs très, très différents, avec chacun des messages forcément différents, voire divergents, mais ont, je crois, permis à tous les parlementaires qui en sont membres de prendre pleinement conscience de la difficulté de la tâche du maintien de l'ordre. Voilà, ça c'était le préambule. Dans le prolongement de la question de notre collègue Jean-Louis Thieriot, je voulais, Monsieur le Ministre, vous entendre peut-être nous en dire un peu plus sur certaines techniques de maintien de l'ordre dont on entend beaucoup parler. Alors Jean-Louis Thieriot a parlé de la technique de l'encagement qui aurait été pratiquée samedi dernier et qui aurait été plutôt bien pratiquée et assez efficace, engendrant beaucoup moins de troubles et de voilà, débordements fâcheux. Quid de la technique dite de la NAS, dont personnellement je peine à savoir en réalité si elle est toujours pratiquée ou pas, parce que j'ai vu que la Cour de cassation venait de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur le sujet de la technique de la NAS, au Conseil constitutionnel. Voilà, est-ce que vous pouvez éventuellement nous en dire un peu plus et nous faire un point sur ces techniques? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, chers collègues. Voilà, Monsieur le Ministre, pas mal de questions.
Excusez-moi. Peut-être répondre toutes les questions sur vous un peu, à l'exception peut-être du renseignement territorial. Je ne peux dire qu'à Mme la députée Bonneau qu'effectivement, nous avons mis beaucoup de moyens dans le renseignement territorial. Alors, il a été parfois mis essentiellement sur les questions de radicalisation, de suivi des individus radicalisés, et qu'il est de plus en plus mis désormais en même temps, si j'ose dire, sur la question des contestations sociales, du suivi de ces contestations sociales, et donc de connaître, c'est très important pour nous, le nombre de personnes qui viendraient dans des manifestations pour justement jauger et juger du nombre de forces qu'on y met pour pouvoir encadrer ces manifestations. Parce que tout cela est basé sur un certain nombre de prédictions, plus ou moins vérifiées d'ailleurs, puisque la météo sociale est bien difficile à souligner, et puis les réseaux sociaux et le manque aussi de structuration des leaders et des partis et des associations contestataires font qu'il est bien difficile désormais de connaître exactement qui fait, qui fait quoi et dans quelle capacité de mobilisation cela existe. Ce n'est pas parce qu'il y a des milliers de personnes sur une page Facebook qui se disent qu'ils vont donner rendez-vous demain qu'il y aura des milliers de personnes demain. C'est vraiment un sujet important dans la prévision des forces. Mais oui, vous avez raison, on va continuer à y mettre des moyens et un certain nombre d'éléments, que ce soit la DRPP, la Direction d'enseignement du préfecture de police de Paris, ou DRT, évidemment, des renseignements territoriaux. Alors, d'abord, je vais commencer par répondre à M. Bernalicis. M. Bernalicis me pose la question de quel est le rôle exact du ministre de l'Intérieur dans les manifestations, au sens ordre public, quels sont les pouvoirs de décision, sa connaissance du sujet et sa participation. D'abord, je veux dire à M. Bernalicis que je ne participe pas le jour de la manifestation aux décisions prises directement et je ne suis pas dans les salles de commandement. Il m'est arrivé, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, d'aller à la fin d'une manifestation saluer soit les agents qui sont dans la salle de commandement, soit sur le terrain, mais c'est à la fin des manifestations et je ne participe pas directement à cela. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas souhaitable de le faire, d'abord parce que j'ai rappelé dans le schéma national du maintien de l'ordre que celui qui est responsable de la manifestation et de son maintien de l'ordre, c'est le préfet de département en province, et puis le préfet de police de Paris pour ce qui concerne évidemment la zone de la préfecture de police de Paris. Le deuxième des choses, c'est qu'il m'arrive souvent de faire des points, alors soit avec le directeur général de la police nationale lorsqu'il concerne les zones en dehors de la police la préfecture de police de Paris, soit avec le préfet de police de Paris directement, parce que ça concerne évidemment Paris ou la petite couronne, de savoir des points sur la question de ce que disent des renseignements, combien de personnes il y aura, quelles sont les manifestations qu'il peut y avoir, quels moyens on peut y mettre. Et là, en général, le préfet de police de Paris, le DGPN, ou les préfets de département, souvent, font des demandes, notamment des demandes au nombre de forces que l'on doit mettre à leur disposition. Et c'est un arbitrage difficile, qui est celui du ministre de l'Intérieur et de son cabinet, je ne le fais pas souvent directement, mais mon cabinet m'en rend compte, le nombre de forces que l'on met à disposition du préfet de police de Paris ou tel préfet de département, puisque nous avons un nombre de forces, évidemment, qu'il faut parfois rappeler, qui est en intervention, soit parce qu'il contrôle les frontières, soit parce qu'il est en repos, soit parce qu'il est on a des sujets, par exemple, de Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on ramène un certain nombre de forces, etc., parce qu'il lutte contre le terrorisme, parce qu'il tient des bâtiments publics. Et donc, ça, c'est une des décisions que prend le ministre de l'Intérieur, c'est le nombre de forces qu'il met à disposition sur la demande des préfets localement et nationalement. Le troisième sujet dans l'action du ministre de l'Intérieur, c'est que le ministre de l'Intérieur, il a fait dans le schéma national du maintien de l'ordre la possibilité qu'il a laissée au préfet de département de Paris le choix de la stratégie de manifestation. Et ça répond en partie à la question des deux parlementaires sur la stratégie, c'est-à-dire est-ce qu'on fait des manifestations où on sert la manifestation parce qu'on pense qu'elle va être violente, ou est-ce qu'on laisse de l'espace à cette manifestation? Ça dépend beaucoup de la déclaration, ça dépend beaucoup du parcours, ça dépend beaucoup des forces qu'on a d'ailleurs en possibilité et en présence, de la nature de la manifestation. Et en général, le préfet de police de Paris me dit ce qu'il va faire. Et comme c'est un professionnel, je l'écoute, je lui pose des questions, mais je ne réforme pas, je n'ai jamais eu à réformer la décision qu'il allait prendre. Ensuite, il m'apparaît normal de vous dire que ce soit les préfets de département dans les moyens moments les plus difficiles, dans les départements où il y a les villes où il y a le plus parfois de contestations, on pense à Toulouse, on pense à Nantes, on pense à Bordeaux, par exemple, on pense à Rennes, mais singulièrement avec le PP, avec le préfet de police de Paris, il m'arrive de dire ce que je souhaite. Par exemple, lors de la dernière manifestation, j'ai prévenu le préfet de police de Paris que je ne souhaitais pas revoir des images de saccage des magasins ou de policiers à terre qui étaient attaqués de manière extrêmement violente, et je ne souhaitais pas que l'on puisse compter 100 policiers ou gendarmes blessés. Et donc, je lui ai dit de prendre les dispositions, et c'est à lui de mettre en place, si quelque part, permettez-moi de dire que je suggère la stratégie et qu'il a mis en place la tactique, le fait que je ne voulais pas qu'on laisse se dérouler des manifestations violentes et qu'on prenne tous les moyens, en l'occurrence, lorsque le préfet de police de Paris puisse avoir cette démarche auprès du procureur de la République pour lui demander des réquisitions, ce qu'il a fait, prennent tous les moyens pour faire les contrôles préventifs qui permettent, dès le début de la manifestation, c'était le cas à Paris samedi dernier, d'avoir une trentaine déjà d'interpellations et des saisies de marteaux, de couteaux, d'outils totalement hors normes dans une manifestation. Et je donne des idées générales, et notamment la stratégie de dire, opérer des interpellations, ne laissez pas se développer les black box, quitte à ce que nous faisions dans l'intervention. Alors, permettez-moi de corriger, il ne s'agit pas de technique d'intervention dans la manifestation, comme j'ai pu l'entendre par les parlementaires, mais de flangardage qui permettait notamment d'encadrer la manifestation, notamment les commerces, et lorsqu'il le fallait, de couper en deux la manifestation afin de protéger les manifestants eux-mêmes. Et effectivement, pas une autre technique, qu'on appelle celle de la NAS dans certains cas, j'y reviendrai tout à l'heure. Je me permettais de dire à M. Bernalicis que donc je définis le préfet de police ou les préfets viennent présenter, quand c'est vraiment très important, mais c'est le préfet de police, le nombre de personnes qui devraient manifester, la crainte qu'il peut avoir, les difficultés avec d'autres manifestations. Parfois, on a plusieurs manifestations à Paris en même temps. D'un côté, par exemple, ça peut être les Gilets jaunes, de l'autre, les manifestations dans le cadre de la PPL Sécurité Globale, par exemple. Je donne les forces en arbitrage de ce qu'il m'a présenté. Le jour même, je me tiens informé. Et ça se passe par des coups de téléphone réguliers qu'il peut passer ou que je peux lui passer. Quand je vois une image sur les réseaux sociaux, quand j'ai telle ou telle information qui m'est remontée par telle ou telle personne, de lui demander si cela est vrai, parce que lui, il est en salle de commandement. On va dire qu'il me tient au courant au fil et à mesure de la journée. Et il me prévient lorsqu'il va commettre un certain nombre d'actions, soit parce qu'il va porter secours à telle ou telle personne, intervenir dans telle ou telle condition, ou à la fin considérer que la manifestation est définitivement terminée, émettre des sommations avant une intervention plus précise. Et puis il me communique, comme les autres préfets, les blessés, par exemple, dans les forces de l'ordre ou chez les manifestants, quand on les connaît. Alors, vous évoquez un certain nombre de personnes, M. Bernalicis, qui auraient été des manifestants et qui auraient été interpellés indûment. Je rappelle d'ailleurs que les contrôles et les interpellations sont toujours faites sous l'autorité, évidemment, de l'autorité judiciaire. Je voudrais quand même souligner, pour des manifestations dont vous considérez, vous, qu'elles se sont passées avec une intervention un peu forte des services de police, qu'il y a eu, dans la manifestation du 5 décembre, par exemple, 30 gardes à vue et le 12 décembre, 125 gardes à vue. Sur les 30 gardes à vue, il n'y a eu seulement que 7 classements sans suite. Quand il y a eu 30 gardes à vue, qu'il n'y a que 7 classements sans suite, monsieur le député, ça démontre la pertinence des interpellations dans un contexte opérationnel extrêmement dégradé. Puisqu'en plus, sur les 28 gardes à vue, 26 étaient majeurs. Après, il appartient évidemment au garde des Sceaux de vous évoquer les réponses pénales qui sont données, mais beaucoup de comparutions immédiates, de rappels à la loi, de convocation par d'officiers de police judiciaire ou par un tribunal de police. Sur la manifestation du 12 décembre, il y a eu 125 gardes à vue, dont 40 classements sans suite, ce qui montre qu'il y a eu évidemment beaucoup de réponses judiciaires, 30 râles après déferment, 11 rappels à la loi par un OPJ, 15 renvois en comparution immédiate. C'est un montant de comparution immédiate extrêmement important. Et ce qui montre évidemment 5 poursuites d'enquête encore aujourd'hui, 19 mineurs dont 4 déférés devant un délégué du procureur avec poursuite d'enquête. Vous aurez constaté que, bien sûr, dans une façon extrêmement dégradée, il peut arriver que des classements sans suite soient adressés après une garde à vue, mais je considère que les chiffres que je vous donne montrent que la police ne fait pas un usage disproportionné des moyens que lui autorise le procureur de la République, surtout qu'il y a très souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, un certain nombre de rappels, de sommations, et quand les choses deviennent violentes, les manifestants qui ne participent pas à ces actions violentes ne restent pas en général près des casseurs. La police nationale, c'est à bon compte qu'elle intervient dans ces conditions. Alors, la question a été posée, la question de la stratégie. La question de la stratégie, elle est quand même très largement conditionnée par le nombre d'effectifs que nous avons à disposition. Pour que les manifestations se passent correctement, il faut évidemment bien prévoir le nombre de personnes qui va venir. Essayer d'imaginer quand il y a des casseurs qui viennent, ce n'est pas évident, hein, ils n'envoient pas de SMS au ministère de l'Intérieur pour prévenir qu'ils viennent casser, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on essaie de deviner, sachant qu'en plus les lois renseignement nous empêchent de faire un certain nombre d'interceptions qui permettraient de connaître les professionnels, si j'ose dire, du désordre, comme dirait l'autre. Et puis il y a des policiers ou des gendarmes qui sont très largement utilisés dans beaucoup d'opérations, et à commencer par des opérations de police. Et chaque samedi, vous savez, je le dis, c'est souvent à Paris, est-ce combien on en met en province? Est-ce que c'est à Rennes, à Lille, à Paris ou à Lyon où que les choses vont être le plus dur? Évidemment, une fois que vous avez décidé de la prédisposition des forces dans le territoire national, ce n'est pas le samedi matin que vous déménagez des centaines de CRS pour faire 500 km à travers la France pour le samedi après-midi. Donc, il y a une forme de pari qui est basée sur le renseignement. Jusqu'à présent, je peux témoigner du grand professionnalisme du ministère de l'Intérieur. et qui donc du coup commande un petit peu quand même la technique mise en place par la police nationale et la gendarmerie nationale. Alors la technique de la NAS, elle est effectivement, je lis comme vous les décisions de justice, madame la députée, elle est remarquée et parfois critiquée par des institutions comme le Défenseur des droits. Ce qu'il est mis en place, c'est la possibilité évidemment de pouvoir faire à chaque fois, et c'est ça qui était la grande critique de la NAS, une sortie avec un point de contrôle possible à la sortie de cette NAS, dans des conditions évidemment que l'on doit respecter pour la liberté des manifestants et pour garder évidemment la proportionnalité de l'intervention. Et je vous renvoie au 31.3.1.4 du schéma national du maintien de l'ordre que j'ai fait éditer. Sans préjudice du non-enfermement des manifestants, condition de la dispersion, il peut être utile, sur le temps nécessaire, d'encercler un groupe de manifestants aux fins de contrôle, d'interpellation, de prévention d'une poursuite des troubles. Dans ces situations, il est systématiquement laissé un point de sortie contrôlé aux personnes. Ça veut dire que la technique de la NAS est autorisée, évidemment, lorsqu'il y a des troubles, et consécutivement aux troubles, que, évidemment, dans un moment qui est réduit, donc ce que critique souvent le défenseur des droits ou les juridictions, c'est le fait que la NAS dure des heures et des heures. Évidemment, c'est une consigne que je ne donne pas au préfet en général. Et évidemment, il y a toujours, c'est noté noir sur blanc sur le schéma national, laisser un point de sortie où il peut y avoir évidemment un contrôle des personnes au point de sortie s'ils ont un certain nombre de moyens d'identification ou de matériel qui est tout à fait proscrit dans le cadre de manifestations. Enfin, la question de la captation d'images qui a été évoquée ou la reconnaissance faciale, je ne rentrerai peut-être pas dans ce débat maintenant, mais c'est sûr que les images sont un rôle tout à fait important. Je pense aux drones, je pense aux caméras de vidéo protection, bien sûr. Je pense aussi aux images qui peuvent être attachées aux policiers, aux fonctionnaires eux-mêmes. Je parle des caméras piétons, ça peut être aussi des images qui peuvent être, pourquoi pas, autour des armes. Ça a été dit lors de la commission des lois où j'ai été auditionné. Quand on sort son arme, quand on sort le LBD par exemple, et de filmer ce qui s'y passe, moi je n'y vois pas d'inconvénient, quelques sujets techniques, mais pas d'inconvénient, évidemment un sujet avec la CNIL, bien sûr. Et puis il y a l'idée aussi de marquer, c'est un point très important, et vous faites des comparaisons étrangères, je vous invite à regarder ce que font les pays anglo-saxons dans le marquage parfois des manifestants violents. Et ce marquage, il permet parfois de ne pas intervenir tout de suite, mais d'identifier, parce qu'évidemment, le manifestant violent, souvent, il se cache de son identité. Il n'a pas le courage de son intervention violente. Et il y a des pays qui font des marquages, qui ne sont pas que des marquages d'images, qui sont parfois des marquages à l'aide de techniques modernes, pour lesquelles il faudra peut-être que votre commission, Monsieur le Président, s'y intéresse, parce que c'est à la fois un sujet de liberté publique, d'identification et évidemment d'efficacité des forces de l'ordre. Voilà en quelques mots ce que je pouvais répondre aux parlementaires.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, je vous laisse le soin d'une dernière question, peut-être.
Oui, enfin, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Vraiment, je tiens à remercier Gérald Darmanin, il nous a pas mal éclairé. Bon, mais cela dit, bon, comme on a entendu beaucoup de monde, il le sait, je pense que nous serons en mesure, dans le rapport que nous adopterons, je l'espère bien sûr, de manière très collective, début janvier, que nous serons en mesure d'accompagner utilement la réflexion qui a cours actuellement dans le débat public sur les forces de l'ordre, leur déontologie, leurs pratiques, etc. Et ce que j'espère simplement, je ne demande pas d'engagement, bien entendu, mais compte tenu qu'on est en train et on va, je l'espère, réussir ce travail, j'espère que nos propositions et nos réflexions seront bien prises en compte par vous, Monsieur le ministre, par le gouvernement, et par toutes les autorités. En tout cas, nous essaierons de faire œuvre utile pour que le lien, je dirais, entre les forces de l'ordre, la nation, les citoyens, soit renoué dans un climat de confiance réciproque. Je dirais que la police ne doit pas avoir peur des manifestants et que les manifestants ne doivent pas avoir peur de la police non plus. Donc, on doit veiller à tout cela. J'ai peut-être une question, mais je vais la poser quand même. Il nous a été dit au cours de différentes de différentes auditions par les forces de l'ordre qui sont présentes sur le terrain, que parfois il y avait une difficulté dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire que des policiers, des gendarmes à quelques mètres d'un événement sont obligés d'attendre que la salle de commandement, 10 minutes après, leur intime l'ordre d'avancer. Et quelquefois, on voit d'ailleurs des images, et ça nous interpelle, de forces de police qui restent là, ils nous disent c'est qu'on n'avait pas reçu l'ordre. Est-ce que là, il n'y a pas des possibilités peut-être, ou alors est-ce que c'est une mauvaise interprétation des choses? Vous ne voyez pas les choses comme ça? Nous non plus, d'ailleurs, on imagine que si ce n'est pas pour leur faire faire 800 mètres, mais que c'est à portée d'une petite course, qu'il n'y a pas nécessité d'attendre un ordre de la salle de commandement pour 40, 50, 100 policiers ou gendarmes d'avancer sous un commandement local, je dirais. Voilà, qu'est-ce que vous dites à cela? Merci, et merci pour tout.
Merci, monsieur le rapporteur. Bon, c'est une question évidemment qu'on se pose tous, mais d'abord, je voudrais dire, peut-être en mot de conclusion également, mais ça répondra en partie à votre question, que les images d'intervention de police ou de gendarmerie dans le cadre de manifestations qui se passent mal, ou dans lesquelles il y a des casseurs, sont toujours violentes. Et ces images, elles ne peuvent pas être des images qui doivent tous nous contenter, puisque quand on est policier ou gendarme et qu'on arrive dans la confusion de jets de pavés, de gens qui cassent à coups de barre de fer, des vitrines, qui tapent à terre des policiers, qui s'en prennent à des journalistes, elles sont toujours violentes, ces images. Et on ne peut pas se dire qu'il pourrait y avoir à la fois de l'ordre public devant des casseurs et que les images ne soient pas violentes. Voilà. Et parfois, l'image contrarie la liberté de penser. C'est peut-être un peu le problème de notre société. Il m'est arrivé parfois de voir des images en me disant les choses sont extrêmement violentes. Et puis, en regardant sous plusieurs angles et puis en ayant le rapport des services de police, on s'aperçoit que si l'image était violente, la scène était moins. Et il y a parfois des moments où la scène n'est pas violente, l'image n'est pas violente, alors que c'est extrêmement fort et violent. Deuxièmement, je voudrais dire que le maintien de l'ordre, c'est quelque chose de dangereux et de sensible, et que les manœuvres doivent être ordonnées. C'est un champ de bataille parfois, c'est pour ça que la force du commandement, c'est un sujet, et c'est pour ça que les chefs ont une responsabilité particulière, c'est un sujet de proportionnalité de la force et de bonne organisation des forces sur le terrain. Parce que il ne s'agit pas simplement d'intervenir pour le plaisir d'intervenir parce qu'on y voit des méfaits, il s'agit que les fonctionnaires le fassent dans des conditions qui respectent bien sûr le plus possible l'intégrité physique des gens qui les interpellent, mais aussi leur propre intégrité physique. Et d'ailleurs, on peut toujours, malgré les 52 000 manifestations de Gilets jaunes, quand même se satisfaire ni les manifestants, même s'ils ont parfois été extrêmement violents, ni les forces de l'ordre, même s'ils ils ont été très largement sollicités, 2000 blessés dans leur rang quand même, hein, 2000 blessés, n'aient sorti un jour une arme de poing. Quand on voit par exemple ce policier roué de coups à terre, alors qu'il a une arme à la poche, il a quand même la présence d'esprit et le calme, je ne sais pas si tout le monde l'aurait dans cette vision, à ne pas sortir son arme pour tirer en l'air. Tirer en l'air, ce serait évidemment prendre le risque très fort de tuer un de ses agresseurs. Et donc, il faut accepter l'idée que le commandement est parfois un peu lent, mais il est ordonné. Et c'est la contrepartie d'avoir des images peut-être un peu dures, où on se dit la police n'intervient pas, qu'est-ce qu'elle attend, que les choses ne se terminent pas dans le sang pour les forces de l'ordre, notamment. Et puis, troisièmement, vous avez raison, la question que vous posez est finalement une question de déconcentration des décisions. Alors, dans le schéma du maintien de l'ordre que vous avez sans doute lu, j'essaye, avec ceux qui l'ont préparé, de bien expliquer les responsabilités entre le préfet qui est responsable des opérations, le commandant qui est en charge de la décision prise par le préfet, et puis des chefs d'unité qui sont sur le terrain Et évidemment, les moyens technologiques d'images, de vidéos, demain, de la réseau radio du futur, c'est un point très important. J'encourage le président Fauvergue et vous-même à demander au ministère de l'Intérieur des éléments sur la radio du futur, parce que c'est plus simplement des talkie-walkie que les policiers auront demain. Mais évidemment, grâce aux technologies modernes mises en place par le ministère de l'Intérieur, en prévision notamment des Jeux Olympiques de Paris ou de la Coupe du Monde de rugby, d'avoir du son, des images, de la 3D pour pouvoir intervenir et pouvoir comprendre ce qui se passe sur les théâtres d'opération, d'être dans le plus rapide et peut-être laisser un peu d'appréciation, vous avez raison. Encore faut-il, par exemple, d'avoir un terminal numérique qui vous permet de savoir où sont vos collègues. Et ce n'est pas toujours évident dans la confusion, puisque seule la salle de commandement, pour l'instant, a les images. Demain, ce sera moins le cas et permettra la décentralisation de ce commandement. Mais je voudrais vraiment attirer votre attention que c'est la personne qui est responsable de la manifestation et de l'ordre public, elle a une vision globale. Elle sait où sont les individus violents. Elle connaît souvent les rues, les impasses, les difficultés d'urbanisme, les travaux à proximité qui font qu'il ne faut pas faire de charge à ce moment-là, il ne faut pas faire 100 mètres de plus parce que là, on se retrouvera pris en étau ou on sera obligé, parce que pris en étau, d'utiliser ses armes. Donc, oui, une meilleure décentralisation avec un meilleur renseignement, mais ça ne peut pas être l'auto-entreprise, l'ordre, parce que vous avez dit, bien sûr, hein, monsieur le député, il faut parfois accepter que les images ne soient pas du côté de la police, en se disant bah, pourquoi ils n'interviennent pas, parce qu'on sait qu'à la fin, c'est bien une mission dangereuse et sensible que de faire des manœuvres qui doivent être ordonnées. Et on voit bien que quand dans un sujet comme celui de samedi dernier, il y a parfois eu des images très violentes, et à la fin, il y a extrêmement peu de blessés, beaucoup d'interpellations et une manifestation qui, comme vous l'avez dit, ne fait naître ni voiture brûlée, ni commerce attaqué. Et il ne fallait pas s'arrêter à l'image de 16h58 en direct sur les réseaux sociaux, mais bien regarder le bilan.
Merci, monsieur le ministre, de toutes ces précisions. Nous nous souvenons de ce policier, il y a un peu plus d'un an, de ce motard qui, pris dans la tourmente et agressé, avait sorti son arme et l'avait rangée dans son étui. Et ça, c'était un acte de sang-froid exceptionnel. Merci de vos précisions et de tous ces enseignements et ces renseignements qui vont nous être très utiles et bonne fin de soirée à tous les collègues et à vous.